REF, la renaissance des entreprises de France à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF les 24, 25 et 26 août en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous avez été très fidèles ce matin sur nos applications. Bienvenue sur Radio Immo, sur Territoria. On est ravis de vous avoir. Nous sommes le 25 août. Il est 15h passées de 1 minute. Nous sommes en quasi-direct. Merci en tout cas de tous vos commentaires hier. C'était une journée extrêmement intéressante. On a beaucoup de chance. Il fait très beau ici à l'hippodrome de Longchamp. Je vous encourage à venir si vous avez la possibilité. C'est juste magnifique. Il n'a échappé à personne, effectivement, que nous sortons d'un confinement, peut-être d'un reconfinement qui va se reproduire avec un virus qui a mis à genoux la planète pendant plus d'un an et demi. Tout ça a fait apparaître des nouveaux usages. Tout ça a fait apparaître une façon de voir les choses différemment. Les personnes ont redécouvert leur logement, ont redécouvert leurs fonctions, se sont posées peut-être des questions. En tout cas, l'impact sur l'économie est réel. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler du bien-être justement au travail, peut-être des nouveaux usages, d'une nouvelle façon d'appréhender son outil de travail, son métier, ses projets professionnels. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Olivier Ruttard.
Bonjour.
Comment ça va, Olivier ?
Ça va très bien, il fait beau, il fait bon.
Olivier, DRH chez Malakoff Humanis.
Absolument.
Alors moi, il y a un truc qui, que j'aime beaucoup, c'est le mot humanis, Malakoff Humanis. Moi, je trouve ça génial quand on parle des hommes, des femmes dans leur métier. Alors, je sais qu'on vous a posé souvent la question. Ce confinement a mis en relief à la fois des fragilités institutionnelles, aussi une façon un peu brutale aussi de remettre en question un certain nombre de modèles. Est-ce que ce qu'on a appelé peut-être à tort, et maintenant c'est devenu un peu galvaudé, le monde d'après, c'est une réalité ou c'est une fiction ? Est-ce que les bonnes habitudes reviendront à la charge ? Qu'est-ce qui résulte de toute cette crise d'un point de vue, voilà, pour commencer cette interview, comment vous percevez de votre fenêtre à vous, avec votre analyse, tout ce qui vient de se passer sur le plan de l'impact du bien-être au travail ?
Vaste question. Ouais. D'abord, le monde d'après, on n'y est pas. Pour savoir ce que sera le monde d'après, dans un monde hybridé, personne ne sait ce qu'on sera dans 18 mois. On est dans un monde VUCA, tout le monde le sait, un monde volatile, incertain, complexe, qui a ses ambiguïtés et qui, dans ses manières d'agir, se pose plein de questions. Personne ne sait ce qu'on sera dans 18 mois. Ce qu'on doit faire, c'est occuper la préparation et s'occuper entre nous, par groupe de travail, de préparer cet avenir. C'est ça notre enjeu. Alors oui, on veut plus voir certaines habitudes, on veut plus voir certains modes de fonctionnement. Non, on ne sait pas complètement comment on va s'organiser dans le futur. Oui, il est temps d'en parler, il est temps d'échanger, il est temps de co-construire.
Alors, je vais vous donner quelques statistiques. Les premiers papiers qui avaient été publiés en disant « on va vivre un exode urbain sans précédent ». Force de constater que les villes moyennes ont tiré leur épingle du jeu avec une démographie clairement qui s'est inversée. Est-ce que le poste de travail, la fonction en elle-même, la façon de modéliser, notamment sur les modes de management, ce principe qu'on appelle d'hybridation, j'aime pas trop le terme, mais ce fait que voilà, le tout télétravail ou le télétravail intermédiaire... À quel point ça a pu bouleverser finalement les modes de management des entreprises ? À quel point le côté finalement incertain, voire stressant, peut-être même schizophrénant, a pu impacter les managers d'aujourd'hui qui ont du mal à définir réellement les nouveaux modèles ? Est-ce que ça, c'est réel aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui se dessine de votre point de vue ?
Oui, alors
c'est des questions qu'on vous pose d'ailleurs
oui,
tous les jours.
Oui, bien sûr. Et puis c'est quelque chose qu'on gère aussi hein, au quotidien. La crise de 2020 a fait apparaître en tout cas des angoisses par rapport à ce qui arrivait, ça c'est sûr, des résiliences, des agilités incroyables. On est passé d'un monde anxieux à un monde, on va dire, de transition. On sait une chose, c'est que les modèles anciens, on veut les voir partir dans ce qu'ils étaient le plus rétro, et on veut les voir atterrir dans des modes qui tiennent aux promesses de bien-être. Je m'explique. La relation entre les gens, elle doit être intelligente, elle doit être intéressante, elle doit être en confiance. Le contrôle, par principe, c'est une modalité qui doit être remis aux oubliettes, sous réserve qu'on ait des points d'échange en transparence. Si je dois résumer les choses, on doit se garantir un collectif commun. Ça, c'est ce qu'on doit faire pour le demain. Aujourd'hui, on doit abandonner le mode de contrôle systématique. On doit plutôt travailler sur la confiance. Aujourd'hui, on doit se poser la question des bénéfices réciproques. Si moi je suis en télétravail, toi entreprise, qu'est-ce qu'il nous propose en alternative en bénéfice d'indemnisation ? Si demain on se dit que le management de proximité a réussi pendant cette crise à être bien présent et que le top management a réussi à bien mettre en confiance les salariés, que advient-il du middle management ? Voilà. Donc les questions qu'on doit explorer, on doit les explorer aujourd'hui ensemble. Il n'y a pas d'opposition, il y a simplement un cheminement qu'on doit assumer ensemble. Et la question que vous posiez, qui était de savoir voilà, si on a des choses à ne plus voir venir, oui, on ne veut plus être déresponsabilisé, on veut être responsabilisé, autonome, et avoir l'accompagnement qui va bien.
Alors, ce n'est pas valable dans tous les métiers, bien sûr, il faut être très clair, on ne peut pas télétravailler dans tous les domaines d'activité, ce qui crée parfois des distorsions. Est-ce que ça va perdurer, le modèle télétravail, bureau, cette forme un peu voilà, qu'on dit hybride, deux jours, trois jours, full-time, est-ce que c'est des modèles qui vont pouvoir s'inscrire définitivement, finalement, dans certains types d'activités, dans des écosystèmes. Bien évidemment, le système numérique, l'industrie des services. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous le sentez venir ?
Oui. Alors, il est sûr qu'on ne va pas revenir au modèle d'avant de 5 jours de présence si on a la capacité
on
à travailler
pas.
À distance. Non, je ne crois pas. Ce n'est même pas intéressant pour les entreprises et pour les salariés. On y trouve de l'équilibre à travailler chez soi, dans des conditions qu'on s'est choisies. Pour l'entreprise aussi, elle peut aussi avoir ce bénéfice d'avoir des gens qui peuvent, dans un milieu de concentration intellectuelle, avoir quelque chose de plus-value, plus intéressante. Il faut simplement qu'on puisse cibler ensemble ce qui doit être fait en collectif, ce qui peut être fait chez soi ou dans un tiers-lieu, peu importe. Mais aujourd'hui, il faut se mettre au clair sur qu'est-ce que l'on peut bien faire en télétravail et ce qu'on peut bien faire en commun. Et c'est ça qu'il faut pouvoir bien challenger, bien répartir. Notre modèle de demain sera un modèle qui va être agile. C'est-à-dire que si vous devez venir en télétravail deux jours la semaine prochaine, mais trois jours après, ou pas du tout, parce qu'il n'y a pas d'exigence à ça, il faut pouvoir le tolérer. Ce qu'on doit faire, nous, c'est garantir le collectif. L'important, c'est qu'on n'ait pas des gens qui soient purement détachés de l'entreprise, mais qui soient engagés avec une modalité intéressante pour eux.
Donc pour vous, il n'y a pas d'opposition sur le socle culture d'entreprise, engagement, et le fait de ne plus avoir une présence 100%.
Ouais.
Il n'y a pas de perte là-dessus. Qu'est-ce que vous dites à ces managers qui ne savent pas comment contrôler, qui vous disent le problème, c'est que du coup, je ne suis pas en confiance. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des modes de contrôle ? Parce qu'effectivement, est-ce qu'on se dit, par exemple, on a un tracker, ce qui fait qu'on sait à quelle heure s'allume l'ordi, sur le téléphone, sur des choses comme ça. Comment, en fait, on sort de ce côté hiérarchique, contrôlant, manageant peut-être, et cette autonomie dont vous parlez. Parce qu'effectivement, quand on interroge, et on a fait un sondage récemment, les personnes, c'est intéressant parce qu'ils disent, on veut faire un job dans lequel on a vraiment du sens dans ce que nous faisons. Mais on leur a demandé, mais c'est quoi le sens pour vous ? Effectivement, le bien-être, c'est en fait le fait de ne pas avoir le sentiment d'être fliqué, contrôlé et autres.
Partons d'un principe a priori de confiance. Voilà, on recrute des gens, ils ont des diplômes, ils ont été certifiés, ils ont une expérience, ils viennent avec des compétences, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les recrute.
D'accord.
Nulle part, on recrute des gens incompétents par principe en disant venez chez nous, vous allez voir, c'est formidable, on fera rien ensemble et on va se fâcher. Ça n'a pas de sens.
Ouais,
donc, si on reprend les choses dans l'ordre, on va les reprendre dans l'ordre, on recrute des gens compétents et donc on les met en situation de confiance pour qu'ils puissent s'épanouir. C'est ça qui nous intéresse. Ça intéresse l'entreprise.
C'est un pacte intéressant d'ailleurs dans le mode de recrutement, en disant voilà, on vous prend par rapport à un cadre de confiance préliminaire.
C'est un partenariat,
ouais, c'est bien.
On se met ensemble. Oui, non, mais bien sûr.
C'est presque rassurant, je veux dire, dans une démarche entrepreneuriale.
Moi, je suis enthousiaste à rencontrer des gens qui ont envie d'intégrer nos structures parce qu'elles sont bienveillantes et résilientes. Donc voilà, on recrute des gens pour bien fonctionner ensemble, on recrute des gens parce qu'ils sont bienveillants, on l'est tout autant, et on a confiance en eux. Alors, si dans ce mode de relation, le management se sent un peu démuni par rapport au modèle ancien dans lequel il y avait un contrôle, ou pas d'ailleurs, les choses ont bien évolué depuis. Il faut pouvoir se former, il faut pouvoir aussi se parler, avoir des endroits dans lesquels on peut échanger entre managers, ce qu'on appelle le co-développement, et qu'on puisse réinvestir ces champs relationnels. Enfin, il est beaucoup plus intéressant d'avoir des gens en bien-être, qui sont fiers de leur entreprise, qui portent le drapeau avec flamme, pour qu'on puisse tous être dans cette énergie productive.
Alors Olivier, tout à l'heure, vous avez effectivement parlé de à la fois de cet enthousiasme et de ce pacte de confiance dans le recrutement. C'est très clair. J'aimerais qu'on parle de l'espace, qui est un impact important. On a posé la question, justement. Qu'est-ce qui a été le plus pénible pour vous dans la période de confinement ? Dans les trois premières réponses, on a la notion d'espace. Ce qui a d'ailleurs permis l'explosion des volontés sur l'achat de terrasses, balcons, espaces verts, et le départ de personnes des grandes métropoles dans lesquelles, soyons clairs, l'espace était tributaire. Bien évidemment, on n'a pas le même espace à Paris intramuros qu'on a à Vichy, à Dreux, à Brive-la-Gaillarde ou autre, etc. Est-ce que vous, Olivier, vous observez finalement une corrélation entre des personnes qui ont sauté le pas, c'est-à-dire resté dans l'entreprise, mais quittant finalement la métropole en allant à 100, 200, 300 km pour avoir la possibilité dans leur espace d'avoir un logement mieux adapté, moins cher du coup, ou alors à périmètre constant pour le même prix, avoir beaucoup plus grand? Est-ce que ça, ça va être une notion importante dans le recrutement, cette notion d'équilibre chez soi? Parce que quand vous parlez de télétravail, Olivier, on parle de télétravail chez soi?
Non.
Ou est-ce qu'on parle de télétravail dans des tiers-lieux
voilà, c'est ça.
Voilà, expliquons.
La question du télétravail, c'est de pouvoir une relation avec son employeur, de quel soit l'endroit que l'on choisit. Ça, c'est un premier état. D'ailleurs, l'avenant à l'accord télétravail qu'on a signé récemment permet de télétravailler dans n'importe quel endroit en France pour deux raisons. La première, c'est d'avoir la législation sur les accidents de travail qui s'applique. Pourquoi la France ?
D'accord.
La deuxième, c'est d'être en capacité de se déplacer s'il y a besoin pour rejoindre le collectif. Voilà. Maintenant, avec ces deux conditions, tout est ouvert.
Alors,
notre sujet à nous, puisque la question, c'était de se dire...
Coworking, tiers-lieu,
c'est ça,
maison...
Ça peut être ça, mais il faut en parler. C'est-à-dire que quelque part, il faut qu'on en parle ensemble pour pouvoir, si les conditions sont réunies, pour bien travailler. Vous disiez tout à l'heure, il y avait peut-être des réflexions sur des gens qui changeraient d'endroit parce qu'un espace... Rappelons quand même les conditions de 2020. On était obligé de rester chez soi 5 jours sur 5 pour tout. Donc forcément, lorsque vous avez cette intensité, le ras-le-bol peut venir et les risques psychosociaux peuvent émerger. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est un des angles morts.
Et ça a été le cas.
Absolument. Et d'ailleurs, l'étude qu'on publiera d'ici une quinzaine de jours ou un peu plus sur la RPS va révéler tout ça. Donc il y a pour le télétravail, cette démarche d'attention des managers et de l'ensemble du corps social à l'égard des plus fragiles, des plus vulnérables, ce qu'on peut être tous dans la vie, on n'a pas tous les mêmes vallées, mêmes monts de vie, on a le droit à ce moment-là d'avoir le soutien de l'entreprise et même le devoir d'être aidé et accompagné. Donc c'est ça le bien-être et c'est ça la logique d'honneur d'une entreprise, c'est d'avoir sa capacité à accompagner toutes les linéarités professionnelles, qu'elles soient hautes ou basses, mais qui conviennent à une équipe globale pour le salarié dans son entreprise.
Est-ce que vous avez pris conscience aussi de votre activité, mais bien évidemment dans les études que vous menez, sur justement la notion du logement par rapport à l'emploi? Cette question du logement, alors... Là, bien évidemment, nous, on s'appelle Radio Immo et Territoria, on est plutôt branché sur la question.
Ce que j'ai compris.
On a aussi un plateau à Action Logement d'autre côté. Action Logement qui est, en fait, l'organe, finalement, qui permet de rapprocher l'emploi et le logement. Olivier Rutard, est-ce que vous considérez que l'espace est un des éléments du bien-être au travail?
Essentiel.
De l'espace personnel?
Absolument, hein. C'est essentiel. Il faut être bien là où on est pour bien travailler. Et je dis bien, on est alors, en confort, mais en confort aussi d'échange avec ces modalités de travail. Je m'explique, quand vous êtes en télétravail, vous avez besoin d'échanger avec vos collègues, à charge pour vous d'avoir l'équipement ou le lieu pour être au calme ou avoir la qualité d'écoute ou de parole que vous avez. Si vous êtes dans des emplois de concentration, libre à vous d'aller où vous voulez, dès lors que, à titre de l'objectif, ces éléments de restitution sont de bonne qualité. C'est à vous de choisir la meilleure des modalités. L'employeur doit vous faciliter ces modalités, pouvoir vous indemniser s'il y trouve aussi intérêt, mais c'est un équilibre commun. On ne peut pas aujourd'hui avoir des bascules d'un monde à un autre sans qu'on puisse parler de ces équilibres.
D'ailleurs, les entreprises soutiennent l'effort de construction à travers l'APEN, qui est donc une participation à l'effort de construction. Il faut le dire d'ailleurs, je vous le dis les amis, ceux qui nous écoutez, que dans votre entreprise, vous avez la possibilité, ce n'est pas réservé uniquement aux grandes entreprises, contrairement à ce qu'on peut imaginer, pour avoir droit à un logement, la possibilité, par exemple, de favoriser la mobilité dans les territoires et accéder à l'espace. On a bien vu d'ailleurs à quel point l'espace était redécouvert par beaucoup d'entre nous dans les grandes métropoles et qui a été un facteur en fait d'accroissement du stress. Bien évidemment, surtout par exemple pour des jeunes foyers qui avaient des enfants en bas âge où il n'est pas du tout agréable de travailler dans ces espaces. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la shortlist finalement des achats immobiliers aujourd'hui, la pièce supplémentaire est devenue presque un critère évident. Dernière question, Olivier Rutard. Je sais que vous, chez Malakoff Humani, vous publiez régulièrement des études là-dessus. Si on observe aujourd'hui le moral des dirigeants d'entreprise, le moral des managers aujourd'hui, TPE, PME, parce que vous intéressez à l'ensemble de l'écosystème, on se situe comment aujourd'hui avec à la fois les incertitudes. Je prends par exemple les catastrophes qui nous arrivent sur les matières premières, dans lesquelles on a mis en relief la dépendance économique à l'égard de certains pays, et clairement je parle de la Chine. Je rappelle simplement, tout à l'heure on a eu, hier soir on a eu une personne qui est à la tête d'un laboratoire pharmaceutique et qui nous expliquait que 90% des molécules étaient fabriquées en Chine pour certains médicaments. La messe est dite, hein, à un moment donné, il va falloir trouver une solution. Qu'est-ce que aujourd'hui se dessine pour ce moral des dirigeants d'entreprise ?
Au-delà des industries que vous évoquez, moi je dirais qu'au sein de Malakoff Humanist, ce qu'on voit en termes d'état d'esprit des managers du monde d'après...
Vous êtes bien placé pour le voir en plus.
Voilà, c'est plutôt une démarche plutôt positive. On est dans un monde incertain, on sait qu'on va devoir évoluer en agilité.
Ah, vous trouvez que le moral aujourd'hui, il est plutôt...
Il est plutôt correct.
Plutôt bon.
Plutôt correct.
Ah bah,
On a une démarche, en tout cas je parle des managers de Malakoff Humanist, plutôt correcte. Plutôt positif, en attente d'évolution. Il y a une forme d'attente d'être associé aux organisations de travail de demain et avec une envie de co-construire. Voilà, c'est ça qu'on a.
Et les collaborateurs ?
Alors, les collaborateurs, là, ils sont en hybridation. On a eu une phase de reprise d'activité, ça s'est très bien passé. Une envie de convivialité, ça c'est certain.
D'accord.
Savoir ce que sera le monde de demain, ils seront en attente aussi qu'on leur propose des modalités dans lesquelles ils vont pouvoir...
Est-ce que ça a resserré les liens ? Est-ce que ça a resserré les liens ? Est-ce que ça a fait descendre finalement le côté certitude que nous avions à une certaine époque à l'aube d'une épidémie que personne n'a vu venir ? Est-ce que quelque part, vous avez ressenti une humanité, un humanisme, sans faire de jeu de mots avec vous ?
Je crois que ce qu'il y a, c'est une grande fierté d'appartenir à ce groupe.
Ouais.
Ça, on le mesure dans les enquêtes d'engagement. Deuxième sujet, c'est qu'il y a une grande confiance dans le management, à charge pour nous de porter haut et fort cette belle confiance.
Alors, si on veut savoir plus sur Malakoff Humanist, il suffit d'aller sur le site internet.
Exactement.
Je sais que vous publiez régulièrement des études extrêmement intéressantes, justement. Je vous encourage à y aller. Merci, Olivier Rutard.
Merci.
Voilà, je rappelle que vous êtes directeur des ressources humaines de Malakoff Humanist. Je rappelle que le podcast, vous le retrouvez sur l'ensemble des agrégateurs de podcasts en replay. Et si vous l'écoutez en direct, écoutez, tant mieux. Likez, développez et même commentez. À très vite.
La REF, la renaissance des entreprises de France, à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF, à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.